Pour le jour de Noël, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'on a vu en fait la semaine dernière. Bon, pour vous qui n'étiez pas là, on avait un superbe spectacle des enfants. Bon, c'est pas juste parce que je suis père et que c'était mes enfants aussi qui étaient parmi d'autres, mais en fait, on avait donc tous les enfants ici, donc on a fait le petit sketch de Noël et c'était franchement super. Alors, j'aimerais aujourd'hui donc revenir sur les textes et notamment le récit qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Parce que, bon, comme vous savez, on dit beaucoup sur Noël, surtout quand le temps approche. Il y a des diverses voix qui parlent de Noël. Il y a notamment ceux de la voix de l'économie qui disent « acheter, acheter ». Et puis, il y a aussi la voix donc de la Bible qui n'a rien à voir avec ça. Mais il y a aussi la voix de l'intelligentsia athées parfois qui disent bon c'est l'esprit de Noël qui est important mais bon pas forcément les faits parce que de toute façon ça s'est jamais arrivé, enfin, voilà, bref, vous connaissez cette histoire aussi. Avec toutes ces voix donc qui parlent, j'aimerais puisque nous sommes réunis dans l'église, enfin nous sommes une église et nous avons la Bible, la parole de Dieu, j'aimerais ouvrir les textes, voir ce qui est dit, parce que dans le récit en Matthieu, on va voir trois choses. D'abord, on va voir la conception, donc miraculeuse. Et là, c'est si important, parce que, comme vous le savez tous, c'est peut-être le point le plus contesté, même et tristement, dans le chrétien, dans l'église parfois. Donc, c'est bien parce que ce texte nous permet d'aller droit au but, donc on peut voir ça. Ensuite, on peut voir aussi cet homme, Joseph, sa place dans tout cela, parce qu'il est parfois vite oublié. Et puis, finalement, le texte de Matthieu nous permet de voir le plan de Dieu. Donc, la grossesse de Marie, miraculeuse, place de Joseph et le plan de Dieu. Mais d'abord, allons là où parfois ça fait le plus polémique. Parlons de cette grossesse, ce miracle qui est Jésus. Donc, Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ok, là, on a tous les infos et puis on n'a rien du tout, à la fois. Quelle est la réponse? En fait, elle est, là, voilà, elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Voilà, tout court, c'est tout ce qu'il faut. Mais il faut dire aussi que personne ne s'y attendait à l'époque. Et là, je crois que ça, c'est fort. C'est important de dire parce que très souvent, on parle de tous ces événements un peu comme c'était normal à l'époque. Oui, bon, il y avait du merveilleux. Les gens, ils croyaient dans des choses. Ça passe. Ça passe il y a 2000 ans. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a la science. La science nous enseigne certaines choses qui, évidemment, ça ne serait pas accepté. Bon, ce n'est pas la première fois que vous avez entendu ce genre de discours, j'imagine. Alors, mais je vous assure que, à l'époque de Marie, quand même, il y a 4000 ans, il y a 6000 ans, les gens savaient parfaitement comment les enfants viennent dans le monde. Jusqu'au point où la population continue. Et aussi, il faut dire que ce genre de choses, dans tous les âges, fait scandale. Et notamment dans ce genre de contexte. on sait comment les bébés sont nés. Eh bien, parce que c'est aussi le moment où il y a tous les documentaires et toutes les analyses scientifiques qui sortent. C'est peut-être bien, justement, de voir quelques-uns de ces objections qu'on a. Notamment, on parle parfois de cette idée que, bah oui, ok, bon, tout le monde sait que ça ne peut pas arriver comme ça. Et en réalité, il faut dire que ce genre de mythe, on nous dit, ce genre de mythe se trouve dans d'autres peuples. Par exemple, les Babyloniennes, ils ont aussi un genre de mythe comme cela. Les Grecs aussi, des choses qui datent bien avant le christianisme, on nous dit. Bon, et c'est vrai, si on regarde ces sources, oui, effectivement, on peut trouver ces différentes traces. Mais ce qu'il faut, comme toujours, si on veut avancer ce genre d'idées, il faut quand même ne pas regarder avec un œil superficiel ni léger. Parce que la réalité, c'est que tout se ressemble de loin. Par exemple, j'ai préparé une petite slide. Alors, par exemple, la colombe. Alors, ici, vous avez trois exemples de colombes, n'est-ce pas? Et plus ou moins, elles se ressemblent, n'est-ce pas? Par contre, entre ces trois colombes, il y a parfois des décennies donc de différence de leur création, et aussi il y a des siècles, par exemple. Ici, c'est la colombe qui se tient en dessous de la croix Huguenot. Elle a un sens très spécifique, mais ça fait quand même 400 ans qu'elle est là. Elle n'a pas du tout le même sens qui se trouve dans la colombe de Picasso. En fait, Picasso n'a aucune inspiration religieuse ou autre. Ça, c'est juste la paix et dans un contexte, 1964. Donc, c'est tout un autre contexte. Là, c'est la colombe de Carvery-Chapelle qui a été créée dans les années 60 aussi, non, excuse-moi, 70, mais là, dans un mouvement de réveil par l'Évangile aux États-Unis, dans un mouvement de jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a trois colombes qui se ressemblent, mais qui ont des messages différents. De la même manière, quand on regarde en arrière et quand on regarde à la loupe ces différents mythes, on réalise qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus différentes. D'abord, en ce qui concerne les Grecs, c'est pas du tout le Saint-Esprit qui descend sur une vierge. Non, la réalité, c'est que plutôt, enfin, je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que mythologie grecque est un peu crue. Et bien là, il y a donc les dieux qui descendent vers les hommes et donc qui ont des relations. Donc, ce qu'on voit, c'est que les buts sont différents, le message est différent, l'espoir est différent, les détails sont différents. Donc, en réalité, oui, de loin, ça peut se ressembler, mais ce n'est pas du tout la même chose. D'autant plus que la Bible est racontée comme un témoin oculaire. C'est des choses qui ont été faites. Là, tout repose sur le fait que c'est un fait historique. Parce que cette fait historique a un sens dans l'éternité. Donc, on est quand même très loin d'une simple philosophie et c'est même pas écrit pour l'être. Donc, ça, c'est la première chose. Une autre chose, et là, on touche la polémique aussi dans le christianisme, parce que souvent, on dit, ouais, mais attends. On sait comment les bébés sont nés. On commence toujours comme ça. On sait comment les bébés sont nés. Donc, la réalité, c'est que, en fait, c'est juste une mauvaise interprétation les textes originels. Parce qu'il y a ce texte qu'on va voir tout à l'heure dans son contexte, Ésaïe 7, qui écrit 800 ans avant Christ. Et nous lisons,
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, et voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel.
Alors, notez bien, parce que ce texte est pris de l'hébreu, il ne dit pas vierge, qu'est-ce qu'il dit ? La jeune fille. Donc, si vous n'avez pas encore entendu cet raisonnement, la voici. C'est tout simplement, c'est pas vierge, c'est jeune fille. Donc, en hébreu, c'était pas exactement ce qu'il a dit. Or, c'est faux. Et je vous dis pourquoi.
Parce que ce mot ici, donc Alma, pour jeune fille, est une jeune fille non mariée.
Pardon. Il y a donc un autre mot pour une jeune fille mariée, ou une jeune fille qui peut-être n'est pas mariée, mais qui a eu des relations avec un homme, et qui est notamment condamnée dans la loi. Et donc, chaque fois que nous voyons ce mot-là, Alma, c'est toujours dans le sens qu'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas eu des relations, donc implicitement, elle est une vierge. Ça, c'est pourquoi, avant la naissance de Christ, lorsque Ésaïe a été traduit en grec, quel mot ont-ils utilisé ce mot-là, parthenos, parthenos qui est tout simplement vierge. Donc, c'est très important. Donc, quand on nous lance ce genre de discours, de savoir, en fait, non. En fait, non. Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Parce que, qu'est-ce qu'on attendait à l'époque? Quand on attendait à l'époque un Messie, personne chercher les bébés nés sans père. Non. En fait, à l'époque, on cherchait un Messie qui serait un grand guerrier qui va balayer tous les Romains. Et cette mentalité était tellement imprégnée dans la mentalité des gens que, vous connaissez l'histoire, lorsque les disciples ont passé par la Samarie et la Samarie ne voulait pas accepter Jésus. Qu'est-ce que Jean a demandé à Jésus? Seigneur, tu veux que on appelle le feu du ciel pour... C'était ça la mentalité des gens à l'époque. Et c'est ça ce qu'on attendait. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on n'attendait pas non plus que le Messie meure pour nos péchés d'abord. Voyez, tout était écrit pourtant. Est-ce qu'on faisait attention? Là, c'est toujours la question, je trouve, dans tous les problèmes. Alors, justement, regardez comment ça se passe en Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, verset 26. C'est là où on a effectivement cette annonce à Marie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » On continue, il dit, « Voilà, tu seras enceinte. » Et puis, donc Luc chapitre 1, verset 34. Là, on a la réponse de Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Bon, là encore, grande preuve que à l'époque de Jésus, il savait très bien comment les bébés sont faits. Première chose. Et regardez, elle est surprise. Elle qui a donc la bénédiction. Elle est surprise. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle accepte le message. Même si elle ne s'y attend pas, elle accepte et elle comprend. En fait, plus tard, si vous voulez regarder ça à la maison, lorsque elle rend visite à Élisabeth, elle chante une cantique sublime. Et ce cantique, en réalité, est fait de références bibliques superbes. C'est-à-dire que, et s'y attend pas, elle entend le message, et puis elle accepte, et puis elle se réfère aux Écritures. Et puis elle agit. Ça, c'est la foi. Et la foi, donc, n'est pas une chose aveugle. C'est pas, donc, on voit une femme, donc, qui... Ah bah, tiens, elle est enceinte. Ah bon? Il n'y a pas de père. Ok, bon, c'est le Saint-Esprit. Non, ça, c'est pas la foi. La foi est donc raisonnée. La foi est aussi un choix. C'est faire confiance basée sur l'épreuve et surtout sur la bonne réputation d'un Dieu qui ne ment jamais. La foi est aussi l'action. Et elle avance dans l'action. Alors, fermons ma parenthèse et passons maintenant à notre deuxième point. Parce que Joseph, quand même, il était un homme de bien et il a une histoire à nous dire aussi. Donc, revenons, Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rentrer secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph, il est averti aussi par l'ange et on voit vraiment dans cet entretien le portrait d'un homme de bien. Il était quand même un homme de bien. Premier indice, c'est comment l'ange lui appelle. Il dit « Joseph, fils de David ». Bon, vous savez que son père à lui ne s'appelle pas David. Non, ça fait référence en fait à qui ? À David, le grand roi d'Israël. C'est lui qui a écrit le livre des psaumes. C'est lui qui avait un cœur après Dieu. Bon. Il se trouve bien sûr que Joseph est né dans la généalogie de David, c'est-à-dire qu'il est royal, donc il est noble si vous voulez, mais à cette époque, Israël était vraiment dans une espèce d'humiliation, et bon, avec les générations, même aujourd'hui, bon, les gens qui ont une descendance donc de royauté autrefois, bah, ils peuvent être enseignantes aujourd'hui, ou informaticiens. Donc, c'est juste comme ça que ça marche. Comme Napoléon a dit, tout empire met à sa fin. Voilà. Donc, voilà. Le voilà en tant que charpentier loin. Mais Dieu voit les choses autrement. Je vois toujours les choses autrement. Il voit cette lignée tracée. Et quand même, cet homme est choisi. Il y avait d'autres fils de David, mais lui, il est choisi. Et il souligne le fait qu'il descend de David. Il est donc royal. Et c'est très important, c'est respectable, surtout dans une société patriarcale. Oui, mais il y a un sous-entendu aussi. C'est que ces mêmes qualités qu'il y avait chez David, qualités d'un homme qui aime Dieu, un homme qui est droit, un homme qui veut faire du bien, c'est attribué aussi à lui. Et nous le voyons aussi dans son caractère. D'abord, il est dit même, un homme de bien. C'est ce qu'il est. Et donc, ce n'est pas juste qu'il fait des choses bien, c'est qu'il a un cœur qui est bien. Et il veut faire le bien jusqu'au point où, bah, d'abord, il est honnête avec lui-même. Il est honnête, il voit les choses en face. Sa fiancée est enceinte. Et, encore, il sait comment ça se passe et il n'est pas le père. Regardez ce qu'il pense. Dans son monde, il a toutes les cartes en main. Ça fait mal, n'est-ce pas? Justement, pour ceux qui ont été trahis d'une manière ou d'une autre, vous savez à quel point ça fait mal. Mais surtout dans une société de honte, où effectivement le regard des autres porte un jugement naturellement sur toi, effectivement, la nature humaine veut se protéger, se défendre. Et dans cette société, il n'y a rien de plus naturel que, et il a le droit de le faire, de défamer toute la famille et même plaider pour la peine de mort. Terminer la situation, il peut continuer et mener sa vie et trouver quelqu'un d'autre. Voilà ce que les gens peuvent dire. Mais lui, non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. C'est-à-dire que même dans son cœur, malgré la trahison, quelque part en lui, qu'est-ce qu'il cherchait ? Le bien pour elle, le bien pour sa famille. Quelque part en lui, il y a compassion. Et ça, ça vient de Dieu. Et voilà pourquoi il y a ce lien. Et donc, qu'est-ce qu'il propose ? De rompre secrètement avec elle. Là où personne ne le voit. Il ne veut pas la diffamer. Là où, effectivement, elle peut être, si elle va dans une autre contrée ou ailleurs, où personne ne le sait, personne n'est au courant, elle aura une chance et l'enfant aussi de vivre. Ça montre une certaine compassion. Alors, si ça, c'est déjà sa mentalité, il faut dire que ça se suffit. Ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que Marie, elle est innocente. Elle n'a rien fait. Elle est enceinte par le Saint-Esprit. Et elle porte le Messie du monde. Donc le Messie d'Israël. Il faut absolument que cet enfant ait donc un protecteur masculin. Il faut qu'il y ait justement cet homme qui est là pour veiller sur eux et protéger le bébé. Et bien justement, Dieu envoie un ange. Et ça, c'est primordial pour le bien être de cet enfant, parce que il va avoir des conséquences. Notamment, pendant toute sa vie, personne ne comprendra. Ah oui, c'est normal. Les gens vont parler comme toujours, et même en Jean chapitre 8, lorsque les pharisiens attaquent Jésus et ils parlent de son père, ils disent, mais qui est ton père? Ce genre de discours était toujours, le suivait, c'est normal, vu la société dans laquelle il vivait. Deuxièmement, il entre tout droit dans la guerre spirituelle. Parce que, quand même, c'est le Rédempteur du monde qui est né. Un véritable bébé. Il ne faut pas penser que Jésus, en tant que bébé, avait la capacité humaine d'un adulte. Il était tout simplement un bébé. Même si il, par sa nature divine, garde toujours ce côté divin, par sa nature humaine, il ne peut pas avoir de plus grande intelligence qu'un normal bébé. Ça, c'est tout à fait l'humiliation de ce qu'il fait. C'est ça aussi le mystère dans tout cela. Parce que s'il était, je ne sais pas, un Superman ou enfin, un bébé, comme on voit parfois, qui se lève et qui pardonne et puis qui parle. Et, enfin, franchement, il ne pouvait pas être le sauveur de nos péchés. Parce qu'il ne serait pas le rançon qu'il faut. C'est l'humanité qui est entrée dans le péché. Donc, par un homme, il faut que on est sorti. C'est d'ailleurs sa mission. Donc, il entre tout de suite dans la guerre spirituelle. Et qu'est-ce qu'on lit ? Bon, on est en Matthieu chapitre 1, mais qu'est-ce qui se passe en Matthieu chapitre 2 ? Il est toujours un bébé et le roi Hérode, donc le roi de Judée, veut tuer tous les garçons de 2 ans et en dessous dans sa ville natale. Il doit vivre dans ce genre d'environnement pendant toute sa vie. Il faut donc qu'il y ait un père, un adulte qui peut prendre soin de lui. Et ça, c'est fort. parce que Joseph accepte la responsabilité sur ses épaules et il prend charge de la, en fait, l'éducation du Fils de Dieu. Attention, en tant que parent, j'avoue que j'ai fait des erreurs. J'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire. Parfois, j'ai mis des limites et c'était trop exigeant. Et parfois, j'avais pas mis des limites où j'aurais dû le faire. Enfin, parent, ça fait des erreurs. Mais déjà, ça fait mal et en tant que parent, on se culpabilise. Bon. Mais imagine que tu as le Fils de Dieu. Oh là! C'est dur. Mais il accepte. Et il était conscient de cause. Regardez. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici ce que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Ça, c'est le plan de Dieu. La naissance d'un fils, comme on a dit, il faut qu'il soit un véritable garçon. Sinon, il ne peut pas s'asseoir sur le trône d'Israël quand même. Et ça fait aussi partie du plan du Messie, c'est qu'il sera roi. Autre chose, c'est qu'il faut aussi qu'il accomplisse tout ce que Israël ne pouvait pas accomplir. Israël, qui n'a jamais vraiment accompli la loi, ne pouvait pas d'ailleurs, parce que le peuple juif, comme tout peuple au monde, est pécheur. Et bien, ça c'est aussi pourquoi même nous, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Dieu, ils ont une conscience et ils savent parfaitement qu'ils n'arrivent jamais à faire ce que leur conscience dit. Et même s'ils le veulent, ben, on a des expressions comme « personne n'est parfait ». Parce que effectivement, personne n'est parfait, tout le monde est pécheur, nous sommes car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu est, comme il est dit, il sauve son peuple de ses péchés. Là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, personne ne s'y attend. À l'époque, on attend le grand guerrier. On attend Napoléon, quoi. Mais non, Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus est venu comme le sauveur de nos péchés. Parce que nous sommes dans cet état à cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Et on le sait, parce que dans notre état de pécheur, ce n'est pas juste qu'on est séparé de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On est séparé aussi des uns des autres. Ça, c'est pourquoi on peut avoir une chose magnifique comme une assemblée nationale, donc le demi-cercle rempli des gens qui doivent représenter tout le peuple français. Et qu'est-ce qu'on voit dans cela? Des gens qui se détestent. Ils ont tous le même but, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils sont d'une différente couleur politique, ça ne s'arrête pas. Et c'est comme ça dans toutes les nations de tout le monde, parce que bah, même si vous prenez je sais pas, votre voiture et vous avancez dans une certaine manière et ça ne plaît pas à la personne derrière vous ou avant, il y a aussi du conflit. En fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas juste que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes séparés des uns des autres, parce que la réalité, c'est qu'au fond de nous-mêmes, chacun cherche à se servir soi-même. Mais bon, si c'est chacun pour soi, forcément, il y a des conflits. Ça, c'est une des choses naturelles de cet état de pécheur. Le nom de Jésus veut dire « éternel sauve ». Et nous savons donc qu'il est venu pour sauver de nos péchés, de nous sauver de ce problème. D'ailleurs, c'est pour cela que les plus grands commandements, Jésus les a bien soulignés, c'est quoi? Les deux grands commandements. Premièrement, oui, aimer ton Dieu de tout ton cœur. Et puis il est venu pour restaurer toutes choses, voyez? D'abord, nous avec Dieu, et puis nous les uns avec les autres. C'est donc le base de ce qu'il est venu. Il est venu réconcilier avec lui-même, puis il nous change pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Il est celui donc qui est annoncé depuis toute éternité. Il est Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Et là, on a peut-être le thème, un des grands, bon, il y a plusieurs thèmes dans la Bible, mais ça, c'est un des grands thèmes de la Bible, Dieu avec nous. Parce que dès le départ, dans le jardin, c'était Dieu, donc avec Adam et Ève. Et puis, même avec la loi, c'est justement Dieu qui a montré à l'homme comment faire, mais non, ne sont pas arrivés, donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils unique, donc c'est Dieu qui vit physiquement avec nous, il est Dieu avec nous, puis il est monté au ciel après sa résurrection, et qu'est-ce qu'on vit maintenant? Ben, Dieu vit en nous, le Saint-Esprit habite corporellement dans tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, Dieu est parmi nous, et regardez d'ailleurs ce qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3, c'est l'espoir chrétien. Apocalypse 21, verset 3, nous lisons ceci. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu, et c'est peut-être aussi un des plus grands mystères, Dieu veut vivre avec sa création. Il veut vivre avec nous, malgré nous. Il veut vivre avec nous, donc il vit en nous. Et il nous prépare pour le jour où il va effectivement marcher avec nous et vivre en nous. Alors, le plan de Dieu est annoncé, même dans cet enfant. Même son nom qui porte l'Éternel Sauve, Jésus. Yeshua, enfin, toute sa vie, c'est ça, c'est que le plan de Dieu est annoncé. Chaque fois qu'on l'appelle, l'Éternel Sauve, Jésus, c'est là. Et chaque fois qu'on évoque son nom, c'est d'ailleurs une des raisons, son nom est déjà le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quelle est donc la réponse? La réponse, c'est l'obéissance, la foi, et puis la bénédiction. Au son du réveil, Joseph vit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tant que protestant, oui, nous croyons que Marie était vierge, mais qu'elle n'a pas resté vierge, justement parce qu'il y a ce verset-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, tout simplement, Joseph, il obéit. Il aurait pu procrastiner. Il aurait pu dire non. Mais non. Il ne se justifie pas dans l'incrédulité. Il ne procrastine pas. Il prend les choses en main, sachant que c'est difficile. Il fait référence à la Bible, il fait référence donc à un Dieu qui ne manque jamais et il marche. Il marche dans la foi. Ça, c'est la foi. La foi n'est pas aveugle, c'est raisonner et c'est de l'action. Et c'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il reçoit après? La bénédiction. Il est un des premiers témoins de Jésus quand il sort dans le monde, quand il entre dans le monde. La bénédiction, ok, bon, peut-être qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge, ok, ouais, mais quand même, il berce le Fils de Dieu physiquement dans ses bras. Il regarde les yeux de ce bébé, il touche les mains de ce véritable bébé. Les bénédictions sont là et c'est ce que nous voyons. C'est une image de nous quand nous mettons notre foi en lui. Ben, il nous permet de voir des choses. Il permet de vivre des choses et c'est là où la bénédiction coule. Une bénédiction tout d'abord spirituelle, parce que nous sommes nés de nouveau et nous entrons justement en relation avec lui, nous sommes réconciliés avec lui. Car en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé d'abord du fait que Jésus, il est un enfant miraculeux, oui, mais il fallait. C'est le Fils de Dieu, il ne faut pas qu'il ait la nature humaine. Enfin, si, il a la nature humaine, il ne fallait pas qu'il ait la nature pécheresse. Donc, il n'y a pas d'autre explication convenable que une naissance d'une vierge, une conception miraculeuse. On a vu cela. On a vu aussi que Joseph, qui est-il? C'est un homme de bien, un homme qui nous montre ce que c'est la foi. Surtout, je pense que c'est très pertinent dans un jour où on dit beaucoup de la foi, mais on ne sait pas exactement ce que c'est réellement. Alors, en voyant ce genre de personne et en regardant son exemple, ça peut justement nous inspirer à marcher aussi dans la foi, à montrer à ce monde, voilà ce que c'est. La foi, en fait, ce n'est pas de l'aveuglement. La foi, ce n'est pas un divorce de son intelligence. Non, la foi, en fait, c'est très actif, c'est raisonné. Et en réalité, face de l'éternité, c'est peut-être la chose la plus raisonnable qu'il soit. Et comme dit John Lennox, il faut plus de foi, donc de ne pas y croire, que de croire quand on regarde tout ce qui est dedans. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu vivre parmi nous. Et donc ce Noël, je vous invite à ouvrir grand votre cœur et regarder de cette optique-là, l'optique de l'Évangile, l'optique de ce Sauveur merveilleux qui est venu pour nous sauver. Et d'avoir confiance dans ce message qui a la puissance de nous changer et aussi ramener une meilleure paix de ce qu'on attend en ce moment. Un paix où on est rempli de l'amour de Dieu et on peut aimer les uns les autres. Amen. Prions.